peut-être évoquer des moments fondateurs avant de dire un peu comment je suis venu au conte. Il y en a plusieurs. Ces moments, on parlait hier de deuxième naissance. Un peu de... la première, je devais avoir 4 ans et j'habitais au troisième étage d'un petit immeuble. Et le soleil était rasant, et quand je suis rentré dans la pièce, il y avait des millions de petites poussières, vous savez, si vous avez peut-être déjà vu ça. Et c'est un souvenir extraordinaire. Je m'imaginais qu'il y avait des mondes, et que dans les mondes, il y avait des mondes. Et ça a été, voilà, et c'est quelque chose que j'ai conservé, que j'ai oublié après, mais c'est revenu par la suite très fort. Voilà, c'est le premier moment. Je m'installais aussi au balcon, j'habitais dans la boucle de la Marne, et quand il y avait un orage, ça durait 5 heures. Et je restais sans bouger pendant à regarder les éclairs. Et ça, je pense que ça m'a nourri des forces vives de la nature, quoi, d'être en contact avec les puissances, quoi. Voilà, il y a eu ça. Un autre élément qui est important quand même, symboliquement, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mon père était d'origine polonaise, mais c'était un vrai titi parisien avec la guapette, et tout le Marcel, enfin tout ça, qui était très drôle, qui racontait beaucoup, mais il était bossu. Et donc je souffrais beaucoup du regard des autres enfants, mais j'ai conservé toujours cette image d'une personne cassée et aimante. Et je pense que ça m'a nourri dans la façon dont j'ai pioché les histoires dans mon parcours. Ça, je me suis rendu compte qu'après, hein, là, je vous fais un truc, ça a l'air évident. Ça remonte petit à petit. Et l'autre moment fondateur pour moi, c'est le Petit Prince de Saint-Exupéry, mais curieusement, pas l'histoire. C'est la voix de Gérard Philippe. Et c'était pour moi quelque chose de... Donc je devais avoir là peut-être 10 ans, 11 ans. Voilà, et puis après, donc ce qui a été très important, je vais passer un peu les périodes, mais vers l'âge de 12-13 ans, je lisais énormément, et je dévorais et je découvre Jean Giono. Et je suis tombé dedans pour n'y jamais ressortir. Oui, je relisais, je lisais tout le temps. Et comme mon père est décédé, j'étais très, très jeune, je me suis entouré de tas d'images paternelles, de bûcherons, de chanteurs, Félix Leclerc... Voilà, j'ai glané autour de moi tout un tas d'images. Voilà. Et c'est là que le souvenir des petites paillettes dans le soleil, c'est que curieusement, les gens se perdent souvent dans l'imaginaire. Et moi, j'ai trouvé ma colonne vertébrale. C'est ça qui m'a aidé à grandir. C'est ce monde de la fantaisie, de l'imagination, des mondes dans les mondes, des choses qu'on ne voit pas. Et c'est encore écho au Petit Prince, quoi. Voilà, tout cette... Voilà, donc à une adolescence très pleine de poésie, Victor Hugo, Rimbaud, enfin, je passais mon temps, Guy Béard, voilà, beaucoup de figures, surtout des figures masculines, j'en avais besoin, j'adorais les femmes aller voir dehors, mais j'avais besoin d'hommes à me mettre à l'intérieur pour me tenir au monde, quoi. Voilà, et donc ensuite j'ai été très militant pendant l'histoire de la loi Debré. Je me suis fait virer du lycée parce que j'étais agitateur. Et puis j'ai travaillé à l'usine pendant 3 ans. Ça m'a guéri de vouloir expliquer aux pauvres comment il fallait faire pour s'en sortir. Et puis après j'ai vendu des bouquins en porte-à-porte et j'ai retrouvé la nature. J'étais en Auvergne. Je passe vite, et puis je me suis retrouvé dans le Midi, avec tout d'un coup, avec la naissance j'ai 5 enfants, mais la naissance de ma première fille, tout ce jaillissement de poésie, c'est monté en même temps, c'est remonté, tout est venu, et là je me suis mis à raconter, mais je ne connaissais pas le répertoire du conte. Donc pendant des années, j'ai raconté mes propres histoires, mes contes musicaux. Je suis multi-instrumentiste, j'ai toujours eu facilité à prendre un instrument et puis à jouer sans avoir appris. Donc voilà, j'étais entouré de tout un tas de... Et donc j'ai commencé par là. J'ai, J'ai créé pendant, je sais pas, 7 ou 8 ans des contes musicaux. J'intervenais dans les écoles, je racontais. Ça faisait du bien aux enfants, aux instits, et ça me faisait du bien. Donc voilà. Et puis, des années après, je ne sais plus par quel concours de circonstances, j'ai rencontré Bruno de la Salle et j'ai découvert qu'il y avait un renouveau du conte. Où j'étais en même temps, mais moi j'étais complètement, j'étais pas dans ce circuit, mais ça s'était passé en même temps. Ce qui me fait dire qu'en fait, que le renouveau du conte, ça a surtout été, c'est l'intelligence collective qui a dû appeler des êtres un peu partout pour que, parce que la collectivité avait besoin de nouveau de paroles, d'images. Mais curieusement, moi je l'ai fait hors circuit, ce qui fait que je suis toujours resté un petit peu. Un peu à part, quoi. J'ai toujours été raconté dans des milieux extrêmement étranges, des maisons d'arrêt, des quartiers difficiles, chez le coiffeur, des choses.
Chez le coiffeur.
Oui, chez des. À la gare. Enfin, voilà, dans des situations où. Et souvent, j'étais plutôt demandé dans des lieux qui étaient dépourvus de toute proposition artistique. Donc j'ai beaucoup bossé avec des danseurs, avec des peintres, avec voilà. Et j'ai découvert finalement le monde des conteurs plus tard. Ça faisait déjà 15 ans que je racontais quand j'ai découvert qu'il y en avait d'autres.
Oui. Il y aurait 15 années à peu près de la période.
Alors j'ai dû commencer à raconter, parce que j'ai commencé, je ne vous ai pas dit, j'ai commencé par une carrière de chanteur, donc parallèlement. Mais donc ça doit être le conte, ça doit être vers 83-84 que j'ai commencé vraiment à raconter. J'ai commencé dans les écoles en 80, doucement, mais à enregistrer, à en faire mon métier vers 83-84. Voilà. Et en même temps, ça va ? En même temps, ce que je peux dire, c'est que comme j'avais mes instruments de musique, j'ai eu la chance de bosser avec beaucoup de bons musiciens, mais j'étais souvent seul, parce que pour vivre de ce métier, c'était pas évident. Et donc, je me suis entouré vraiment de présence. Pour moi, les instruments de musique, ce sont des camarades. Quand je les installe sur scène, c'est plus que des soutiens. J'ai un rapport, surtout que j'ai la plupart de mes instruments, j'ai des instruments tortues, j'ai des instruments, une harpe avec une tête de caribou, un psaltérion cheval. Donc pour moi, c'est en même temps des présences d'animaux, quoi. Voilà, j'en suis où ? Ça mélange un peu tout ça.
Mais... T'es t'en es où ? C'est ça, c'est que t'as pas été dans ce circuit-là.
Non, j'ai pas été dans ce circuit.
C'est autoproclamé.
La question du répertoire.
J'ai rencontré le répertoire. Et en même temps que j'ai rencontré le répertoire, j'ai rencontré les contes des peuples premiers. Et là, ça m'a fait remonter Giono. J'ai dit, voilà des gens qui pensent comme je pense, comme je vis les choses. Et donc j'ai voyagé et j'ai été chercher des contes chez les Amérindiens, chez les Touaregs et surtout chez les Mongols. Et donc j'ai pu m'infuser dans des cultures qui pensaient comme ce qui m'était monté à l'adolescence avec Giono.
Est-ce que tu avais entendu parler de Michel Lindelof, du mouvement?
Non, je l'ai rencontré après.
Folk et tout ça.
Oui, ça un peu, mais je connaissais pas Michel. Je connaissais pas mal le mouvement folk et j'ai joué avec pas mal de musiciens. Voilà. Mais et donc après, je me suis mis à vraiment fouiller le répertoire quand je l'ai découvert, beaucoup. Et donc tout en continuant à faire mes propres comptes et puis en même temps à fouiller le répertoire, à aller chercher et à trouver des versions. Voilà. Et à même adopter une technique dans les pays où j'allais chercher des contes, c'est-à-dire de ne pratiquement pas parler, de dire aux gens ce que je venais faire et puis de demander à des jeunes étudiants de me traduire mot à mot. Parce que la langue des peuples premiers est extrêmement métaphorique. Elle est riche. Je prends toujours cet exemple. Vous allez en Mongolie, si vous faites traduire, on vous dit le gars de la yourte à côté, il est mort. Et en fait, si vous faites traduire mot à mot, c'est le gars à côté, il est devenu ciel. C'est pas pareil. Et ça, j'ai pu voir ça dans toutes les cultures que j'ai visitées. C'est-à-dire ce langage métaphorique, qui est un langage de la poésie et le langage du conte. Et donc je me suis toujours efforcé, en reprenant les versions et tout ça, de l'habiter, pas tout le temps, pas systématiquement, mais au moins de faire goûter les images et la saveur du langage des peuples qui vivent dans la nature, qui vivent, qui cheminent et qui sont pas là dans notre façon de si étroite et étriquée de voir le monde, quoi. Voilà. J'ai aussi beaucoup, assez rapidement, j'ai été en situation d'accompagner des gens qui voulaient travailler le conte, et dans des milieux qui n'étaient pas les milieux des conteurs, c'était les milieux des quartiers, les milieux de... voilà. Et donc c'est aussi une de mes activités, c'est d'accompagner les gens, j'adore ça. Et le fait d'accompagner, ça vous fait découvrir aussi des choses importantes. Et notamment, moi, ce qui me bouscule toujours beaucoup maintenant, c'est de faire vraiment la différence. C'est-à-dire, quand on raconte, on balance pas des fruits à la tête des gens, même si on est un arbre. On laisse venir cueillir les gens. Et pour moi, c'est vraiment comme ça que j'essaye d'accompagner les gens avec qui je travaille. C'est... quand tu disais, on parle de la guérison ou pas guérison. Qu'on donne ce qu'on a, mais c'est les gens qui viennent chercher. Nous, on ne peut rien faire pour les autres à ce niveau-là que de donner.
Tu veux bien préciser, quand tu dis que tu travailles avec les gens, tu leur racontes ou tu écris avec eux,
Toutes sortes de choses. C'est vraiment toutes...
Que tu les accompagnes.
Oui, je les accompagne. Et surtout sans... ce qui est très important pour moi, c'est qu'il n'y a aucune stratégie pour moi. Chacun est différent. Et on n'a pas à avoir de stratégie, on n'a pas... Il y a des gens qui disent « faut tuer l'ego ». Moi, je ne le tue pas, je dis simplement « vous installez votre ego dans le public avec les autres gens ». Et puis, d'essayer d'être traversé. Parce que pour moi, c'est ça, être conteur, c'est arriver à une... ou conteuse, à une forme de transe, où c'est le conte qui vient nous traverser et qui vient choisir, lui, en nous, ce dont il a besoin pour venir au monde. C'est un peu comme ça que je l'aborde. Mais c'est tout ce mélange d'avoir été avec les peuples premiers, d'avoir aussi maturé mes propres histoires sans connaître les arcanes du conte avant. Voilà, ça fait cette soupe un peu d'appréhension de la parole, quoi. Et puis du silence. Moi, je sais que le fait d'être extrêmement silencieux quand j'ai voyagé avec les peuples premiers, ça a été extraordinaire. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui venait me chercher pour me montrer quelque chose que j'aurais jamais vu. En Mongolie, on m'a montré les endroits où étaient les légendes. On vous emmène, ça s'est passé là. Des fois, ça se passe là, mais ça se passe aussi un peu plus loin, parce que... voilà. Et... j'ai appris ça aussi, que la parole doit être suffisamment habitée de silence, quoi. Voilà, c'est un peu le parcours. J'ai peut-être oublié des choses, mais... En tout cas, par rapport à Yem, je me disais... le cœur de ce qu'on essaye de voir surgir un symbole, un personnage qui soit aimant, c'était déjà dans la première histoire que j'ai travaillée, qui s'appelait La Tortue qui était le monde, et qui est la première que j'ai écrite, c'était de ça dont il s'agissait. Et donc je pense que j'ai cousu toute ma vie autour de cette idée de pouvoir mettre à disposition du collectif des images propres à éveiller un sentiment de compagnonnage à l'égard de tout ce qui vit, quoi. Voilà. Et je suis vraiment ravi d'être là, et puis d'être là avec vous, parce que depuis que je connais le milieu du conte, j'ai souvent été dans des réunions pour voir rencontrer les gens. Et puis on parle de salaire, d'intermittence, de machin comme ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je voulais, c'était rencontrer les gens et comment on s'y prend, comment on travaille, sur quoi on travaille, qu'est-ce qui nous traverse. Et là, je bois chaque seconde parce que c'est important, quoi. Voilà.
Merci. Je vais poser une question par rapport à tout ce travail finalement d'ethnologue,
oui.
À ta manière que tu as fait de collectage. Alors c'est vrai que tu écris beaucoup Et du coup, c'est tes versions que tu donnes. Est-ce qu'à un moment donné, tu imagines pouvoir livrer vraiment le collectage que tu as fait?
Je le fais au fur et à mesure. Si tu veux, il y a une chose par rapport... Grâce à Bruno de la Salle, hein, c'est lui qui m'a demandé la première fois de travailler sur un livre, sur les contes du Berry, ensuite sur les contes de la Sologne. Ça, je lui dois beaucoup à ce niveau-là, parce qu'il m'a fait confiance. J'ai fait une mythologie de la Sologne aussi. C'était quoi ta question?
La question, c'est... Nous, on cherche toujours, tu vois, en tant que conteuse, de partir d'une version qui est initiale, la plus initiale possible, pour, comme tu dis, chacun va... être traversé, c'est très beau, j'ai noté la phrase que tu as dit, qu'on vient nous chercher pour dire ce qu'il a à dire à travers nous. Et du coup, ce travail de collectage qui est absolument extrêmement précieux pour nous, pour revenir à la version, tu en as dit, souvent dit, l'arbre-soleil de Bruno de la Salle, c'est génial, on sait que c'est sa version. Et finalement, nous, on sait que quand on retrouve une version plus ancienne, on voit à quel point il l'a retravaillé. Donc ce travail extraordinaire d'ethnologue que tu as fait de collectage, est-ce qu'à un moment donné, tu penses pouvoir le partager?
Peut-être.
Et le donner, tu vois, pour les générations...
Oui, mais je te dis, je pense le faire petit à petit dans certains... Tu vois, dans certains... Oui. Parce que c'est une chose que je n'ai pas dite qui est importante, c'est que je me suis mis donc à écrire... c'est dû commencer en 90 ou 93 avec Bruno de la Salle qui m'a demandé ça. C'est un peu dans la tradition juive, on dit c'est marcher sur ces deux jambes, travailler l'oralité et travailler l'écrit. C'est-à-dire que quand tu travailles l'oralité, tu fluidifies ta parole, et quand tu travailles l'écrit, tu travailles ta poésie, tu vois comment les mots se tressent, comment les images se font. Mais pour en venir à ta question, par exemple sur la Mongolie, qui est quand même le pays où j'ai le plus... C'était beaucoup plus facile que chez les Amérindiens, parce qu'ils n'ont pas souffert. Donc ils n'ont pas peur qu'on leur pique leur culture. Eux, ils sont honorés. Chaque fois que j'arrivais quelque part en Mongolie, on disait « cet homme, il raconte des contes mongols ». J'avais un gros bol de lait frais, des gens étaient vraiment honorés du fait que je m'intéresse à leur culture. Donc c'est plus facile. À chaque fois que j'ai pensé avoir une version qui était la plus ancienne, et il y avait d'autres pistes ailleurs, tu vois, une autre version. Et j'ai eu la chance de travailler avec mon mentor, mon vieux maître René-André Lombard, qui disait toujours... Quoi que tu fasses, tout est toujours plus vieux que tu ne le penses.
Oui, c'est sûr.
Voilà. Donc, j'ai des pistes pour des... Voilà. Et puis, des fois, tu vois que c'est un truc qui a été piqué, tu vois.
Bien sûr.
Là, le conte que je vais raconter peut-être ce soir, ou en tout cas qui va sortir, là, la femme cygne, c'est un conte, normalement, qui est du sud de la Russie, très près de la Mongolie. Et pourtant, c'est un conte mongol, ça j'en suis certain, tu vois. Mais tout le monde le situe autour du lac Baïkal. Donc j'ai conservé la situation, mais j'ai mis ce que j'avais moi appris en Mongolie. Ça, on joue avec ça, parce qu'on est toujours en train de jouer. Parce que forcément, même si tu as fait un travail d'ethnologie, un travail de collectage, ça te traverse toi. Ça va chercher tes creux, tes bosses, et donc on voit ce qu'on est aussi un peu, quoi. En tout cas, à travers le filtre de qui on est. La chose, en tout cas, qui est très importante quand on fait ça, quand on a une version qui nous vient, c'est de vérifier quand même, avoir au moins deux ou trois choses qui vérifient ça. Sinon, on le garde, on crée quelque chose à côté, on sait que c'est à nous.
Oui, mais de toute façon, même les collecteurs du 19e siècle, les folkloristes qui ont commencé à travailler sur le répertoire européen, ils disaient finalement dans les versions populaires, on retrouvait Perrault.
Oui.
Parce que c'était raconté.
Oui.
Donc c'est vrai qu'une histoire, c'est les 1000 versions.
Ouais. Et tu vois, en Sologne, j'ai travaillé vraiment sur.
Excuse-moi, je finis juste parce qu'en t'écoutant, mais il y a aussi cette question de la poésie de la langue dont tu parles.
Et
entendre et partager ça, c'est...
Ouais, ça c'est énorme. Tu vois, une grand-mère, c'est maman cheveux blancs.
Ouais.
Ça te donne déjà tous les... la façon de penser, tu vois.
c'est mon côté historienne.
Non, non, mais c'est bien, c'est intéressant aussi. Hein, c'est...
J'ai toujours allé le fondu ici.
Et alors, bon, comme moi, je racontais, je jouais de la musique, j'étais chanteur, je me disais j'avais des cordes à mon arc. En fait, c'est une tradition, la tradition des bardes. Et c'est mon dernier voyage en Mongolie où les Mongols m'ont dit « Mais t'es pas conteur, t'es comme nous, t'es barde. » Et donc j'assume depuis très peu de temps, quand on me dit ce que vous faites, je dis « Je suis barde. » Parce que j'ai été...
bardé.
Je me suis... Voilà, je me suis... Voilà, puisqu'on m'a dit, je me suis autorisé à le... Ça fait un peu moyenâgeux, mais bon. Mais c'est quand même une tradition, quoi, parce que c'est... Ouais.
Tu leur parles en quelle langue en Mongolie ?
Alors, en Mongolie, moi, c'est-à-dire que les Mongols, je ne parle pas mongol du tout. Mais c'est bien, quand tu ne parles pas du tout, tu es un étranger, tu es un invité, tu n'es pas un touriste. Partout, j'ai vu ça. D'assumer. D'assumer ton... ta non-connaissance. Sinon, je connais un gars, il a été en Mongolie. Il y avait un traducteur qui faisait en chinois ou en russe et qui traduisait en anglais. Si tu as un des traducteurs qui n'en a rien à foutre du compte, c'est de la bouillie au bout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune matière. Donc moi, j'ai toujours pris des jeunes que j'emmenais avec moi, des jeunes de fac ou autres, et je leur disais toujours, vous me parlez mot à mot. Je veux pas, vous ne faites pas des phrases d'universitaires, je veux savoir ce qu'il dit mot à mot. Et c'est là que la poésie... C'est pareil chez les Kogi, tout ça, c'est pareil. En Colombie, c'est une poésie. C'est de... Les gens qui vivent dans la nature, il y a un langage qui s'organise avec les lois du vivant. C'est pas l'école qui les formate, c'est la nature qui les enseigne.
Je me permets de dire juste une petite réflexion par rapport à ça. Tu vois, tu parles des peuples premiers amérindiens et tout, et c'est super. Mais en France, avant le remembrement et tout ça, c'était le même langage. Je donne juste un exemple. Père Jacques Elias collecte un conteur en Bretagne, et il parle d'un conte, et le gars lui dit, le gars collecté dit à Père Jacques Elias, non, non, je ne peux pas le raconter là, il y a encore trop d'herbe autour. Tu vois, c'est parce que c'est comme tu dis, c'était la nature, on parlait en rapport avec la nature, tu vois, et c'est pas, c'était il y a même pas 100 ans.
Ouais. Mais tu vois, quand j'ai fait ce travail en Mongolie, j'ai voulu faire le même travail en Sologne. J'avais commencé un peu tôt. Et donc j'ai essayé de faire pareil. Et j'ai notamment travaillé sur le mythe de la Malnou. La Malnou, c'est la rivière souterraine qui traverse la Sologne, qui de temps en temps se met à jaillir comme un geyser des Afriques, comme ils disent, et qui risque de noyer. Et en fait, c'est tout ce que les êtres humains ne veulent pas voir. Tout ce qui est par en dessous, qui nourrit ce fleuve, qui à des moments ressort. Donc j'ai été chez les vieux paysans, j'ai été partout, mais ils se souvenaient de rien. Mais ils étaient émus par des détails qui restaient, ou des chansons. Donc j'ai dû, recoller le mythe de la Malnou, j'ai dû vraiment faire de la couture. Et par rapport, c'est intéressant pour vous, il y a beaucoup d'images que j'ai retrouvées chez les Tziganes, parce qu'ils se sont beaucoup baladés dans cette région. Et comme ils piquaient les musiques, ils piquaient les chansons, ils piquaient les histoires, toutes les histoires de pivers qu'il y a dans le Berry, les gens avaient oublié, on les trouve dans les histoires tziganes. Et ils disent les lieux où ils passaient, etc. Donc heureusement, il y a eu des... On peut aller piocher dans des gens qui ont un peu... les voleurs honnêtes, ceux qui vont chercher les histoires. Voilà.
Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.